croisée. Chers auditeurs de Forum Opéra et Cobuz, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Croisée où je reçois aujourd'hui Jérémy Rohrer, un jeune chef talentueux que le monde entier nous envie et que le monde entier s'arrache, particulièrement dans le répertoire classique et notamment Mozart. C'était d'abord une découverte le 8 juillet 2006. On est tous sorti abasourdi d'une version de concert d'Idoménée, parce qu'on ne s'y attendait pas, bien sûr, mais parce qu'on a vu éclore sous nos yeux et sous nos oreilles un orchestre, d'abord, le Cercle de l'Harmonie, et puis un chef, un vrai, pas un baroqueux qui s'invente une gestique en se regardant dans un miroir depuis une pratique instrumentale ou vocale, non, non. Un vrai chef avec un vrai bras, des vrais galbes dans la direction. Donc, on s'est demandé un petit peu, mais d'où il venait ce chef et d'où venait cet orchestre ? Alors, un peu de préhistoire avant d'entamer la grande. La préhistoire pour l'orchestre, elle est assez brève. Le Cercle d'Harmonie était né en 2005 au Festival de Pâques de Deauville, à l'initiative d'Yves Petit-Devoise, le directeur du Festival de Deauville, de Jérémy Rohrer, le chef, et de son premier violon, Julien Chauvin. Le chef a une histoire un peu plus longue. Il est né en 1973 à Paris. Il intègre la maîtrise de Radio France à l'âge de 11 ans. Et là, sa biographie nous dit que sa vocation de musicien et plus particulièrement de chef d'orchestre se révèle au contact de personnalités telles que Colin Davis ou Laurine Mazel, rien de moins. Comment se révèle une vocation au contact de tel chef ?
Oh, je dirais pas au contact, c'est un contact assez lointain, hein, bien que j'ai pu approcher à Colin Davis d'assez près à ce moment-là. Mais si vous voulez, comme j'étais petit chanteur à la maîtrise de Radio France, on avait l'occasion de participer à de grandes productions de la radio assez fréquemment. Et je me souviens très précisément d'une damnation de Faust sous la direction de Colin Davis. J'étais donc assis au fond de la scène, en répétition et au concert. J'étais absolument fasciné par ce qui se produisait devant moi. C'est une image qu'on a assez peu l'occasion d'avoir, plus maintenant dans les salles de concert comme la salle Pleyel, mais de voir un chef de face et de voir l'incidence de ses gestes sur un orchestre. Je peux difficilement l'exprimer aujourd'hui, mais c'était une impression très très vive pour un enfant. J'avais l'impression d'un pouvoir sur le son. Je suis d'ailleurs assez heureux que cette vocation soit née de cette manière-là. Je ne pense pas, ça n'avait pas de rapport avec le pouvoir sur les hommes, mais en revanche, l'idée de modeler les sons, l'idée de leur donner une forme et de la voir presque, je dirais, physiquement se développer devant moi, ça m'a complètement fasciné. Et surtout, ça m'a assuré que finalement, c'était le plus beau des métiers qu'on puisse exercer.
En 91, à 18 ans, vous entrez au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, dans les classes de clavecin, avec Christophe Rousset, je crois.
D'abord avec Kennedy Hilbert et ensuite avec Christophe Rousset.
D'analyse, oui. De composition, d'ailleurs vous êtes aussi compositeur.
Non, je ne suis pas rentré en composition au conservatoire, je suis rentré en analyse, vous l'avez dit, en oui. Orchestration, et puis dans les classes d'écriture.
D'accord. Et puis ensuite, vous allez devenir l'assistant de Marc Minkowski, oui, et puis un peu plus tard de William Christie. On se dit que c'est un peu inconciliable, mais pourquoi pas ?
Oui, alors inconciliable, je comprends qu'on puisse se poser la question. Pour moi, ça ne s'est jamais posé, si vous voulez, parce que la découverte de la musique baroque, là encore, n'a pas été du tout dogmatique. Je me souviens les avoir découverts en même temps, c'est-à-dire une des premières interprétations que j'ai entendues sur instrument d'époque, c'était Symphonie de Méhul en sol mineur par les musiciens du Louvre et Marc Minkowski. Et dans le même temps, un deuxième choc assez proche, c'était à Aix, le motet de Lalande par William Christie. Et j'étais fasciné par l'un et l'autre. Et surtout, il y a eu à ce moment-là comme une évidence, si vous voulez, sonore, là encore. Et j'ai vraiment pensé que c'était la voie dans laquelle il fallait s'engager, la voie la plus intéressante, la plus exaltante à ce moment-là. Il y a un personnage qui m'a beaucoup influencé avant ces deux-là, c'est Émile Tchekharov, qui avait été l'assistant d'Herbert von Karajan, et avec qui, en vérité, j'ai pris mes premières leçons de direction, même si c'était un peu informel. J'ai eu la chance qu'il s'occupe un peu de moi, justement, au moment où je rentrais au conservatoire, il m'a donné les plus précieux conseils que j'ai reçus en matière de direction à ce moment-là. Il m'a dit qu'il fallait absolument développer autant que possible l'oreille musicale et la culture musicale, tout ce qui était de l'ordre de l'érudition, qu'il fallait attacher une très très grande importance à ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai intégré le conservatoire dans les glaces que vous avez nommées. Mais il m'a aussi donné une idée de la direction qui était beaucoup plus concrète que celle qui était enseignée à ce moment-là au conservatoire. Lui pensait vraiment que le métier venait de l'exercice du métier, autrement dit qu'on apprenait sur le tas. Et ce qui m'avait marqué, c'est qu'il avait lui-même forgé toute son éducation musicale de chef d'orchestre en dirigeant à peu près tout et n'importe quoi. Il me citait souvent l'exemple d'une symphonie Tchaïkovski qu'il avait réduite pour 50 accordéons. Il tarissait pas d'enthousiasme pour exprimer à quel point ça lui avait appris son métier. Donc ça, c'est une image très très forte qui m'a marqué, parce qu'à l'époque où je l'ai rencontré, il dirigeait quand même les plus grands orchestres du monde. Il est malheureusement décédé très jeune, mais c'était un des chefs les plus prometteurs. Et c'est un enseignement qui m'a complètement conditionné. C'est d'ailleurs pour ça aussi le modèle des ensembles intermittents, le modèle des ensembles qui fonctionnent autour d'un projet partagé par les musiciens, enfin, était toujours dominant dans mon esprit, plutôt qu'une carrière typique de chef invité.
Premier ensemble créé, les musiciens de l'après.
Voilà, bah exactement, sur les conseils de Tchakharov, j'avais rassemblé les musiciens de mes amis du conservatoire pour une aventure qui a quand même duré 5 ans et qui m'a, moi, permis de diriger énormément d'œuvres du répertoire, de rencontrer beaucoup de solistes de ma génération dans le cadre de concerts. Le premier concert que j'ai dirigé avec cet ensemble, c'était aussi le premier concerto que jouait Renaud Capuçon, par exemple. De rencontrer beaucoup de compositeurs qui commençaient à peine à y jouer, comme Thierry Esquèche. Et donc, ça a été effectivement la mise en pratique de l'enseignement de Tchakharov.
Et puis, enfin, le Cercle de l'Harmonie. Alors, le Cercle de l'Harmonie doit son nom à l'ensemble fondé par le chevalier de Saint-Georges, qui était né esclave en Guadeloupe et qui est devenu un intime de la reine Marie-Antoinette. Donc cet orchestre s'est donné pour mission de réhabiliter une musique qu'on connaît mal, une musique lyrique et symphonique de la seconde moitié du XVIIIe siècle, celle qui est restée dans l'ombre de vos figures tutélaires, Mozart, Haydn, Gluck, et puis aussi pour mieux éclairer la transition, ce qu'on appelle le classicisme, entre les effluves galantes du dernier baroque et puis les bourrasques Sturm und Drang du romantisme naissant. Donc je reviens à ce choc au festival de Beaune avec Idoménée. Ensuite, il y a eu des Noces de Figaro qui ont confirmé les impressions qu'on avait eues lors de ce concert vraiment fulgurant. Orphée Eurydice de Gluck, toujours à Beaune, et puis petit à petit, les concerts se sont donnés en tournée au Théâtre des Champs-Élysées, etc. Il y a eu un Cosi magnifique aussi, d'autant que c'est difficile de réussir Cosi en version de concert, à l'instar des Noces de Figaro, qui demandent quand même la scène.
Ça, c'est, je ne devrais pas dire ça, mais c'est un avis que je partage de moins en moins, l'expérience de l'opéra en version concert, en particulier des opéras de Mozart. Je la trouve très convaincante. D'ailleurs, en discutant avec beaucoup d'amis mélomanes, je me rends compte que finalement, l'intrigue d'opéra comme Cosi, passé un certain moment, réserve plus vraiment de surprises et même engendre une certaine lassitude chez certains fins mélomanes. En revanche, la musique, on s'en lasse absolument jamais. Et ce qui est formidable dans cette musique, et qui est parfois sous-estimé, c'est l'intensité du théâtre en musique lui-même. Parfois, quand on arrive à rassembler les chanteurs qu'on désire et que le souffle très théâtral, la restitution du souffle théâtral est partagée par tous, finalement, une version concert est plus satisfaisante qu'une version scénique qui crée d'autres contingences, parfois qui détruit cette énergie propre à la musique. J'aurais tendance à préférer aujourd'hui, dans certains cas, les versions concerts, et en particulier pour Cosi.
Des versions scéniques, bon, il y en a eu, d'opéras peut-être un peu moins connus. Il y a eu Fra Diavolo de Auber à l'Opéra Comique, La Mange à loup de Gretry à Versailles et à l'Opéra Comique, puis L'Infedeltà dell'Usa de Haydn à Aix-en-Provence, qui a beaucoup tourné ensuite à travers la France. Et puis il y a aussi votre carrière de chef invité avec la Clémence de Titus à Lyon,
Oui, beaucoup d'opéras à Lyon. J'ai eu tout de suite, et même avant la naissance du Cercle de l'Harmonie, la confiance de Serge Dorny, qui a énormément compté, qui était aussi, après Tchakarov, une sorte de mentor très très important, qui m'a fait confiance dans mes premiers choix, qui a accompagné mes débuts, en fait. Parce que même avant la naissance du Cercle de l'Harmonie, il m'avait associé à William Christie pour la trilogie d'Aponté à Lyon. Ça a beaucoup compté, en particulier de diriger Cosy et les Noces dans des conditions assez périlleuses, sans répétition. Enfin, avec une répétition pour chaque, et puis de devoir l'assumer après en spectacle. Ce qui est très proche de ce que je viens de faire récemment à l'Opéra de Vienne, où on doit se lancer dans cette aventure qui est la direction d'un opéra sans répétition.
Et puis il y a eu Idoménée, une première production à la Monnaie de Bruxelles avec l'orchestre de la Monnaie, dans une mise en scène de Ivo van Hove. Et puis cette nouvelle production, on y vient, du Théâtre des Champs-Élysées, qui sera mise en scène par Stéphane Braunschweig à partir du 15 juin. C'est un peu une œuvre fétiche, Idoménée.
Oui, ça l'est devenu. En réalité, la première fois que je l'ai dirigé, vous l'évoquiez à Beaune, c'était pas nécessairement le premier opéra que j'imaginais diriger. Mais ça s'est là aussi très vite imposé comme une évidence. Tant finalement, l'orchestre qu'on a pensé avec Julien Chauvin, le Cercle de l'Harmonie, se devait d'être identifié à un répertoire et à une époque naissante qui, à mon avis, pouvait pas être mieux caractérisée que par la référence à l'orchestre de Mannheim, pour lequel a été composé Idoménée. Ce qui est absolument fantastique dans cet opéra du point de vue orchestral, c'est que l'orchestre a une partie extrêmement dense, extrêmement évocatrice. Et je pense même aujourd'hui, à force de l'avoir dirigé, qu'il incarne la présence de Neptune, qui est présente pendant tout l'opéra, comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête d'Idoménée, mais qui n'est pas incarnée. Incarnée seulement à la fin par son oracle. Mais quand on pense à l'ouverture et quand on voit à quel point l'orchestre est fondamental dans l'expression des tempêtes, de l'arrivée du monstre et de ses effets, je finis par me dire que finalement c'est le rôle de Neptune qui est consacré à l'orchestre.
Est-ce que c'est ça qui fait d'Idoménée une sorte de premier opéra de la maturité de Mozart?
C'est certainement le premier opéra de la maturité. C'est aussi la naissance du dramaturge Mozart. Parce que là aussi, la musique est théâtre. Et d'un vieux cadre, qui est celui de l'opéra seria, qui pourrait paraître reculé déjà à l'époque, il crée un objet complètement nouveau par la fulgurance de son imagination, en particulier dans les transitions. On ne le perçoit pas forcément toujours, mais il n'y a pas un enchaînement qui ne soit pas pensé pour gagner du temps théâtral, pour servir la grande ligne et le souffle théâtral. Ça, c'est absolument fantastique. Il y a plusieurs exemples. Un des premiers qui me vient à l'esprit, c'est l'enchaînement du premier acte d'Électre avec la tempête. Et là aussi, on pourrait imaginer, un contemporain aurait sûrement fait un aria da capo pour Électre, récitatif accompagné, et puis déclenchement de la tempête plus tard. Au lieu de ça, il utilise le même fond de l'orchestre, dans un cas l'évocation d'un conflit intérieur psychologique pour Électre, et qui devient l'évocation de la tempête maritime. Ça, c'est une juxtaposition d'images qui est complètement moderne et qui est une idée fantastique. De la même manière, le déclenchement le monstre au deuxième acte, il résout pas la cadence, et c'est l'orchestre qui résout la cadence pour gagner aussi du temps. Au lieu d'avoir dominante tonique comme on a à la fin de chaque récit, l'orchestre fait cette résolution. Le moindre détail d'enchaînement, le moindre détail de construction a été pensé dans l'exigence d'une efficacité dramatique. Vous savez, il citait souvent cet exemple de la voce qui devait être le plus court possible pour être le plus percutant.
On écoute un premier extrait d'Idoménée, c'est donc ce fameux premier air d'Électre enchaîné au chœur Pietà numi pietà, la tempête. C'est une captation de ce fameux concert à Beaune et vous allez peut-être comprendre pourquoi nous étions si abasourdis en sortant de la basilique Notre-Dame. C'est Raffaella Milanesi qui interprète Elettra, et c'est bien sûr le Cercle de l'Harmonie et son chef Jérémy Rohrer et le chœur de chambre de Namur qu'on entend dans le lointain.
Thank you.
C'était un extrait d'Idoménée de Mozart, dirigé par Jérémy Rohrer, avec le Cercle de l'Harmonie, le Chœur de Chambre de Namur et Raffaella Milanesi dans le rôle d'Elettra. Ce qui est assez formidable avec Idoménée, c'est que c'est aussi une sorte de carrefour d'influence. Il y a l'influence française, il y a l'influence évidemment de l'opéra seria, puisque l'opéra est en italien, mais de par l'orchestre de Mannheim, il y a quand même une culture et une couleur allemande. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ?
Présenté comme ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est finalement l'évocation de ce qu'est le style classique. Et ça, c'est, je veux dire que c'est le parcours de l'orchestre, le fait d'explorer des compositeurs considérés comme mineurs qui m'a amené à penser que ce style classique, on présente toujours comme une entité indissociable et en fait constituée d'une mosaïque d'influence. Vous avez ici le style galant, le Sturm und Drang, et finalement qui sont agglomérés dans une synthèse parfaite qui deviendra à lui-même à son tour un socle pour les compositeurs de l'avenir, qui est opéré par Mozart et Haydn essentiellement. Et vous avez cité l'influence française, c'est très important parce que je vous parlais tout à l'heure de cette volonté naturelle en fait. Moi je vois aussi l'influence de Gluck, qui n'est pas toujours notée à propos d'Idoménée, mais cette volonté d'aller au plus direct, d'efficacité. je pense qu'il l'a aussi puisé finalement dans la lecture de Gluck.
Et moi,
Et
ce qui m'avait frappé lorsque vous l'aviez dirigé à Beaune, c'était même au-delà de l'influence de Gluck, c'était presque l'influence de Rameau. Alors, je me suis peut-être
non, mais
imaginé ça, mais...
vous avez raison. Il y a en particulier dans la science de l'utilisation des harmonies riches quelque chose de très très français. Ça, vous avez raison. J'en suis absolument convaincu aussi, en particulier dans le deuxième air d'Ilia avec les quatre voix solistes. C'est le Padre Paldei. Là, on a effectivement probablement des réminiscences. Est-ce qu'elles sont conscientes? Est-ce qu'elles ne le sont pas? Je ne pourrais pas le dire. Il a quand même voyagé 3 fois à Paris, était en contact avec toute une foule de compositeurs. Quand on connaît sa propension à assimiler directement et très rapidement la musique, on ne peut pas imaginer qu'il soit resté fermé à ses influences.
Au moment de son premier voyage à Paris, on répète les Boréades à l'Académie royale de musique.
Oui, puis lors de son dernier, là aussi une autre influence, on est en train de jouer à Amadis de Gaulle. Très très curieusement, certains emplois rythmiques d'air d'Electre, en particulier le dernier, sont très très proches de ce qu'a pu faire Jean-Chrétien Bach. Je ne pense pas qu'il l'ait utilisé consciemment, mais on peut imaginer comment dire, une perméabilité de tous les instants et cette faculté géniale à synthétiser dans une vision personnelle extrêmement forte toutes ces influences. Idoménée est un très bon exemple, et je dirais l'exemple absolu de synthèse.
On a souvent dit que le livret d'Idoménée était assez faible. Alors, quand il a enregistré l'œuvre, René Jacobs a signé un véritable plaidoyer en faveur de ce malheureux abbé Varesco que la postérité a considéré comme un scribouillard. Que vous inspire ce livret empreint de toutes les conventions, certes, de l'opéra seria, mais qui a quand même son efficacité finalement?
Oui, je suis d'accord avec vous. Il a une efficacité certaine. Alors effectivement, on peut contester l'organisation du troisième acte. On a pris le parti avec Stéphane Braunschweig de se rapprocher intuitivement de ce que Mozart laisse entendre, de ce qui serait une interprétation idéale d'Idoménée, c'est-à-dire d'avoir une ligne dans le troisième acte qui soit aussi belle que dans le premier et dans le second, qui sont organisés parfaitement, sans aucune faiblesse dramatique. Je ne saurais pas dire qui de Mozart ou de Varesco a rendu ces personnages extrêmement denses psychologiquement. Ce que je trouve très très intéressant dans Idoménée, c'est qu'on n'a pas affaire à des archétypes manichéens. Loin de là, au contraire, on a des personnages qui sont en proie à des conflits intérieurs extrêmement profonds, qui sont caractérisés de manière très très subtile par Mozart, mais sont des personnages en proie à l'instabilité. Donc déjà, de ce point de vue-là, d'avoir pensé ces personnages-là, c'est une vraie réussite. Je trouve aussi qu'il y a quelque chose d'assez fabuleux dans le parcours d'Electre, d'avoir un personnage qui soit perdu un peu dans l'opéra. Perdue parce qu'en fait, elle est toujours à contre-courant de la situation. Mais finalement, c'est assez beau, c'est comme une ligne en mouvement contraire de ce qui se passe. Ça lui donne une force exceptionnelle, en particulier quand, pour tous les autres protagonistes, finalement, le monde s'écroule. Pour elle, les portes s'ouvrent. Et ça, c'est fantastique parce que ça se passe au milieu de l'opéra. Et à partir de ce moment-là, tout rebascule dans le sens contraire, pour finir avec sa folie à la fin. Je ne sais pas si ça a un rapport avec la section d'or. Enfin, c'est assez prodigieux, cette construction. Et l'idée d'avoir un personnage qui soit une sorte de négatif photographique, j'imagine que Varesco n'est pas du tout étranger à cette idée, c'est d'une très grande puissance.
Mozart se plaignait autant, voire plus, de certains de ses chanteurs, le castrat qui incarnait
Ouais.
Idamant et qui lui a donné maille à partir, et puis le style un peu suranné de Raff. Alors, en quoi est-ce que ça a infléchi sa manière de composer?
Ben, la merveille d'Idoménée, c'est qu'on n'a pas le sentiment de la contrainte. Si j'étais vraiment honnête avec vous, je vous dirais que je ne vois pas où ça l'a infléchi. Parce qu'il se joue de toutes les contraintes dans cet opéra. C'est ce qui le rend vraiment unique. Encore que, bon, c'est le premier d'une longue liste de réussites, mais je ne vois pas un seul aspect conventionnel. Même dans l'aria de bravoure, Foire del Mar, il arrive à insérer les contraintes vocales d'écriture dans une logique dramatique imparable. J'aurais tendance à dire, comme je vous le disais, qu'on peut pas tellement déceler les d'inaboutissements dans cette partition.
À propos de Raff, justement, Mozart écrit, il aime trop les nouilles toutes coupées et il ne s'inquiète pas de l'expression. J'ai eu bien du mal avec lui à cause du quatuor. Ce quatuor, Plus je l'imagine en scène, plus il me fait de l'effet. Et il plaît à tous ceux qui l'ont entendu, même au pianoforte. Seul Raff pense qu'il ne fera pas d'effet. Il me l'a dit en particulier. Non c'è da spianar la voce, c'est trop serré. Comme si dans un quatuor, on ne devait pas parler plutôt que chanter. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Parler plutôt que chanter. Qu'est-ce qu'on fait de toute cette somme de lettres qu'il y a sur la genèse d'Idoménée en tant qu'interprète ? Qu'est-ce que ça veut dire parler un ensemble, un quatuor ?
À mon sens, ça veut dire se rapprocher du naturel, éviter l'artifice, qu'il voit comme un obstacle à l'expression du théâtre. Je crois vraiment que c'est le sens de cette remarque. De la même manière qu'un soliste pourrait trouver un concerto pas assez concertant, ce Raff ne voit pas l'intérêt d'une page musicale nouvelle pour lui, hein, puisqu'on parle d'un ensemble, dans le cas d'un opéra seria, c'est pas une chose répandue. Il n'en voit pas la portée, il n'en voit pas la nécessité, et ça ne rentre pas dans la culture d'un chanteur qui se rattache à un vieux cadre. C'est assez proche du conflit qu'il pourrait y avoir aujourd'hui entre un chef et un chanteur. C'est-à-dire qu'un chanteur qui ferait valoir des prérogatives vocales, par exemple, qui arbitrairement resterait 5 secondes sur une note aiguë, parce que ça, voilà, c'est la tradition qu'il veut, alors que ça n'a aucun sens théâtral. Je pense que c'est assez proche, en fait.
Et donc, on recherche quoi ? Une grande mobilité dans les tempi ? On travaille sur l'agogique pour arriver à ce résultat de naturel ?
C'est une réflexion permanente. À partir d'un cadre qui doit être très solidement établi. La dramaturgie des tempi doit être pensée très en amont, en fonction de nombreux critères. Un des critères les plus importants pour moi, c'est le rythme harmonique. Ça, c'est une des très grandes leçons de ma période de claveciniste. C'est-à-dire qu'on définit un tempo à partir de la fréquence à laquelle les accords se succèdent. Il y a un rythme organique, entre guillemets, qui se crée à partir de ça. Et la pratique, en particulier avec les chanteurs de l'expérience des tempos, le montre très clairement. Il y a un endroit où le discours s'organise, très clairement. Donc c'est ça que je recherche. En fait, de la même manière que Mozart cherchait la fluidité, nous, modestement, les chanteurs, Stéphane Braunschweig et moi-même, on essaye de se rapprocher de ce qu'il aurait souhaité.
On va écouter ce fameux quatuor, cette recherche du naturel, toujours captée à Beaune le 8 juillet 2006. C'est avec Magali Léger qui interprète Ilia, Renata Pocupic qui interprète Idamante, Raffaella Milanesi qu'on retrouve en Elettra et Stefano Ferrari dans le rôle titre et puis bien sûr le Cercle de l'Harmonie.
Di morte m'uccide, e per pietà m'uccide. Soffrir più non si può, 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 soffrir, soffrir più non si può. Peggio è di morte, si gran dolore.
C'était le quatuor Andro Ramingo e Solo, extrait du troisième acte d'Idoménée de Mozart, interprété par le Cercle de l'Harmonie sous la direction de Jérémy Rohrer. Parlons un peu des chanteurs de cette production. Il y a, dans le rôle d'Ilia, Sophie Kartheuser, que vous connaissez bien.
Oui, qui est une artiste magnifique, que j'apprécie infiniment. C'est l'incarnation d'une certaine perfection stylistique. Très très vite, j'ai eu la chance, justement grâce à Serge Dorny, de la rencontrer. Un jour, j'ai remplacé William Christie au pied levé pour Ritornello di Tobia à Haydn à l'Opéra de Lyon. Elle était Sarah et il y avait une telle évidence dans son phrasé, dans les ondulations, dans sa manière d'articuler le moindre détail, qui m'a vraiment subjugué, et surtout qui m'a fait prendre conscience qu'une nouvelle école stylistique était en train de naître, qui se dissociait très clairement d'une certaine tradition, et qui, pour un musicien de ma génération, ouvrait des perspectives nouvelles et exaltantes. Sophie, j'ai essayé de travailler avec elle le plus souvent possible, parce qu'elle allie à une voix exceptionnelle, d'une beauté raffinée, et à ce que je viens de vous dire, un professionnalisme exemplaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la moindre trace de routine, il y a une volonté de régénérer le discours qui est permanente, et c'est ça qui est vraiment exaltant dans un projet, parce que malheureusement c'est pas toujours donné, on doit souvent faire face à des poncifs, à une tradition extrêmement pesante, à une convention du public, des artistes, et donc voilà, c'est extrêmement, extrêmement exaltant de travailler avec elle.
Idamante, c'est une voix à découvrir. Kate Lindsay.
Ah, c'est une voix absolument exceptionnelle qui vient des États-Unis, de New York en particulier, où elle s'est beaucoup produite, au Metropolitan Opera. C'est une voix de mezzo extrêmement chaleureuse, ronde, très très veloutée, et une artiste là aussi incomparable, vraiment tout le temps obsédée par la recherche et par l'invention. C'est un travail absolument passionnant qui est en train de se passer avec elle.
Puisqu'on parle d'Idamante, c'est la troisième fois que vous dirigez Idoménée et c'est la troisième fois dans la version originale de Munich, mm-hmm, qui a été écrite pour Castra et non pas dans la version de Vienne que certains préfèrent.
Oui, on peut même penser que Mozart la préférait. Il y a beaucoup de lettres qui témoignent de ça. Ça fait partie des choix qu'il faut faire.
Dans le rôle d'Elettra, une soprano qui avait chanté avec vous en version de concert au Théâtre des Champs-Élysées, Fiordiligi, c'est Alexandra Cocu.
Choku. Alexandra, c'était aussi une très très belle rencontre pour Cozy. Ce dont je vous ai parlé pour Sophie, c'est évidemment ce que je recherche un peu en permanence pour toutes sortes de voix. Elle est vraiment dans cette lignée. C'est une voix extrêmement dense, une capacité d'évocation vraiment, vraiment très très forte. Oui, je pense que ces trois filles forment un trio très organique.
Et puis dans le rôle titre, on retrouve Richard Croft, qui l'a enregistré avec René Jacobs et qui l'a interprété au Festival d'Aix-en-Provence sous la direction de Marc Minkowski. Alors, comment on fait quand on arrive après deux personnalités comme ça pour dire moi aussi j'ai quelque chose d'autre à vous faire, Monsieur Croft, dans Idoménée?
Je pense qu'aucun musicien n'est insensible à une organisation et une lecture. Et il faut compter sur le temps pour qu'elle s'impose plus ou moins rapidement aux uns aux autres. Certains le voient tout de suite, d'autres mettent un peu plus de temps, et en particulier quand leur belle carrière leur a donné une certaine assurance. Je pense que c'est à ce moment-là, au moment où la confiance devient réciproque, qu'il faut commencer à travailler dans les détails. Mais on peut comprendre aussi qu'un interprète ait acquis certaines assurances sur un rôle. Il faut le respecter aussi. Et que votre propre vision, même si elle est d'essence plus générale, elle va peut-être se heurter avec des intérêts personnels qui sont compréhensibles. Donc, je crois que pour un chef, il faut compter sur le temps et sur l'effet que provoque une pensée musicale. C'est un musicien, lui aussi, parfait, et qui a une vraie considération pour le travail de groupe. Je trouve qu'il est arrivé quand même au contact des deux personnes que vous avez citées, à quand même une très grande connaissance du style. C'est-à-dire qu'en particulier, je lui disais l'autre jour, il a une façon très personnelle et très, très gracieuse d'articuler la phrase et les fins de phrase. Il est jamais dans l'artifice, il recherche l'expression la plus réaliste possible. Comme Stéphane et moi sommes exactement sur la même ligne, de manière naturelle, le travail se fait.
Alors, cette nouvelle production d'Idoménée donne le coup d'envoi d'un festival Mozart qui se déroulera sur 3 ans avec les productions scéniques de Così fan tutte, une
Dans le vrai.
reprise
Oui.
de la production d'Éric Genovès,
Oui.
puis un nouveau Don Giovanni. Alors, cette première année concerne la première maturité de Mozart. Il y aura donc d'autres œuvres au programme de ce festival et vous dirigerez la messe en ut mineur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette œuvre inachevée qui pose certains problèmes d'interprétation, qui est une œuvre très personnelle, hein, qu'il a offerte en
Ah,
action de
voilà,
grâce
absolument.
pour la guérison de
De
celle qui
Constance, oui.
venait d'épouser sans avoir demandé l'avis de son père.
La musique religieuse de Mozart est prête à toutes sortes d'interprétations paramusicales. C'est assez curieux comme production. Ça, c'est vraiment concentré à Salzbourg avec une production prolifique et puis finalement avec les Vêpres d'un confesseur qu'on donne aussi en même temps que la messe en ut. La production à Salzbourg s'arrête pour ne reprendre qu'avec cette messe en ut mineur et puis enfin le Requiem. Je pense effectivement qu'elle est marquée par voilà, un sentiment de gratitude infinie. Elle jouit d'une sorte d'élévation par rapport à d'autres réalisations religieuses. C'est la force expressive qui nous semble très très moderne. J'imagine, c'est la couleur dramatique très particulière, cette tonalité do mineur qui est extrêmement pesante, extrêmement lourde, qui est assez différente finalement des tonalités qu'il employait beaucoup plus lumineuses dans les œuvres précédentes. L'influence de Bach, effectivement, dans le raffinement du contrepoint, dans la densification de l'expression harmonique. En revanche, dans tout ce qui est contrôle du contrepoint, culture du contrepoint, canonique, on sent la résurgence d'un métier très solide, acquis sur le tas à force de création. Et finalement, il est peut-être moins spectaculaire, moins en rupture que ce qu'on dit généralement.
Mozart, mais un peu ce qu'il y a autour et ce qui se passait à Paris. On a évoqué un petit peu l'Amadis de Gaulle de Jean Chrétien Bach. Jean Chrétien Bach, dont vous aviez illustré le versant italien dans le disque que Philippe Jaroussky lui avait consacré, la Dolce Fiamma. Alors, cet Amadis de Gaulle que vous allez diriger au tout début de l'année prochaine, notamment à l'Opéra Comique, c'est la seule œuvre française de Jean Chrétien Bach. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
C'est une œuvre d'une importance assez grande. Moi, je peux vous en dire un peu plus aujourd'hui. On en est dans le. Je pourrais vous en dire plus dans 3 mois, à vrai dire, parce qu'on est en train de reconstituer la partition, de faire des recherches assez approfondies pour se rapprocher de l'ambition originale. Moi, c'est une œuvre qui m'a toujours intrigué parce que je pense qu'elle a été un des modèles d'Idoménée. En particulier, un des personnages qui s'appelle Arcabone, que je vois comme un ancêtre vraiment littéral d'Électre.
D'ailleurs, à l'instar de Armide de
Oui.
Gluck, qui tient sa source chez Lully, Amadis tient aussi sa source chez Lully et
Et
Quinault,
chez
qui ont
Quinault, oui.
écrit un Amadis.
Oui, c'est sur le même livret que l'Amadis de Lully. Oui, ce qui est très intéressant avec Jean Chrétien Bach, c'est qu'il est une sorte d'incarnation de la rupture avec le monde baroque. Et donc il incarne vraiment, c'est même le répertoire qu'on entend défendre part vraiment avec lui, parce qu'il incarne vraiment cette transition, au départ un peu informe, parcellaire, du style baroque au style classique. En ce sens-là, il est vraiment préfigurateur de ce que va faire Mozart. D'ailleurs, Mozart le comptait comme un ami très cher d'abord, mais une immense référence musicale.
On va écouter un air de concert de Jean Chrétien Bach, qui est aussi une belle préfiguration de l'art de Mozart. Cet air de concert avec pianoforte
Ah oui.
obligé et deux violoncelles, qui est extrait de cet album que vous avez enregistré avec Philippe
Infini.
Jaroussky chez Virgin Classics. Sentimi non partir, c'est le récitatif, accompagné, très développé.
Qui fait penser à Chiumi Scordidite,
Et
quelques années.
ensuite, l'aria, hein, rondo, Al mio bene. Alors, ce sont Emilia Gliozzi et Jérôme Huill au violoncelle et Frédéric Rioval au pianoforte. On écoute Philippe Jaroussky sous la direction de Jérémy Rohrer.
Sentimi non partir. Thank you.
C'était un air de concert de Jean-Chrétien Bach, interprété par Philippe Jarouski, le Cercle d'Harmonie et Jérémy Rohrer. Un air de concert écrit pour le Castra Tenducci à Londres, alors que Jean-Chrétien Bach venait de subir à Paris l'échec d'Amadis de Gaulle. Dans le cadre des rumeurs qui accompagnent cet Amadis de Gaulle, il y aura un programme sur la naissance de la symphonie. Alors, c'est un peu cette volonté d'explorer un répertoire symphonique qu'on connaît peu, les symphonies de Rigel, Cossec, tous ces compositeurs pré-révolutionnaires.
C'est la naissance, c'est vraiment la naissance d'un genre qui va être fixé pour la postérité. D'abord, évidemment, avec Haydn. Le style classique, au fond, c'est la naissance du 19e et de ce qui va le constituer. Et donc, on a une image souvent stéréotypée de ce qu'est la symphonie et de la manière dont elle s'est constituée. En gros, Haydn aurait synthétisé toutes les démarches dans ce domaine, reprises par Mozart, puis ensuite par Beethoven et Schubert. On se rend compte, et c'est une des vocations de l'orchestre, en explorant d'autres répertoires, que le foisonnement était international et que les idées très, très différentes d'un pays à l'autre, en particulier avec le foisonnement du concert spirituel, qui était un centre de rencontre international, un peu comme la cour de Vienne pour l'opéra. On éclaire d'un nouveau jour certains idiomes qu'on pensait vraiment réservés à Haydn et Mozart en découvrant des compositeurs comme Rigel, qu'on a beaucoup joué, Simon Leduc aussi, qui a une couleur pré-beethovenienne, et qui enrichissent la connaissance de ce style classique.
Et justement, pré-beethovenien, mais on en vient à Beethoven, vous lui consacrez un disque à la naissance du maître, Beethoven. Le titre est un peu pompeux, mais enfin,
oui.
C'est bien ce que ça veut dire, puisque vous avez enregistré notamment la première symphonie et puis des airs de concert. Alors, Beethoven, c'est un peu le monstre pour ce qui est de la symphonie. Comment est-ce qu'on aborde Beethoven ? Bon, on est armé quand on a commencé en jouant Idoménée, qui est quand même pas le plus facile, mais on aborde ça, comment on appréhende d'aborder Beethoven, ou on y va parce que voilà.
D'abord, plutôt que la naissance d'un maître, il faudrait parler là aussi de la première maturité. C'était vraiment l'idée de ce programme de disques, de rassembler les premières grandes réussites dans chacun des grands genres. Alors évidemment, celui de la symphonie, mais pas seulement, celui de la musique vocale, avec Aperfido et le premier air de Léonore qui deviendra Fidelio, de la musique concertante, instrumentale, avec la romance jouée par Julien Chauvin, la première ouverture. Tout ça pour éclairer la manière dont un style aussi puissant, aussi important dans l'histoire de la musique se constitue, pour battre en brèche un peu l'idée d'une espèce de génération spontanée qui s'imposerait d'elle-même. On se rend compte que Beethoven est pétri de moultes influences et que là aussi il a pris son métier de manière très, très rigoureuse, et que le style n'est pas aussi homogène à l'orée de sa création qu'on pourrait le penser. Mais en revanche, il y a des lignes de force qui se révèlent immédiatement, en particulier cette manière extrêmement personnelle d'accentuer le rythme et les carrures. Et ça, c'est présent dans chacune de ses réalisations. C'est extrêmement fort. La manière aussi dont il arrive, avant même de déformer le cadre du genre fixé par Haydn, à lui donner, un peu comme Mozart avec Idoménée, à lui donner une structure personnelle. Et ça, je trouvais que c'était la mise en perspective de ses œuvres était intéressante.
Et son écriture vocale qui a beaucoup été critiquée.
Pourtant, quand on écoute Aperfido, on se rend compte à quel point Per Pietà et Comescoglio est complètement digéré, et comme l'écriture dramatique nous porte immédiatement vers d'autres horizons.
On va écouter Aperfido, interprété par votre future Elettra di Domenico, Alexandra Giocu. C'est l'extrait d'un disque qui a été enregistré live à l'Opéra de Lille au mois de février par Nicolas Bartolomé pour le label Ambroisie Naïve, qui donc va sortir le 14 juin. C'est bien sûr le Cercle d'Harmonie, toujours dirigé par son chef et cofondateur, Jérémy Rohrer.
Tirannia più crudel Thank you.
On vient d'écouter l'air de concert A perfido de Beethoven, qui est un extrait du nouveau disque du Cercle de l'Harmonie et son chef Jérémy Rohrer, qui inaugure leur contrat chez Naïve. Vous avez, je l'ai dit, une carrière de chef invité. Jusqu'où on peut secouer un orchestre qui n'est pas le sien, comme par exemple quand vous avez dirigé l'orchestre de l'Opéra de Vienne dans Cosi, qui porte fortement la tradition de cette œuvre, jusqu'où on peut les amener, surtout en très peu de répétitions.
Écoutez, moi j'étais absolument ébloui parce qu'on m'avait dit, on m'avait présenté cette expérience de diriger le Wiener Philharmoniker, qui joue donc dans la fosse à Vienne, comme une des plus difficiles, une des plus périlleuses, notamment parce qu'on ne peut pas répéter. En fait, ou très peu. J'ai été extrêmement surpris par une flexibilité réellement hors du commun. C'est-à-dire qu'il y a une attention à la baguette de tous les instants, qui ne laisse au chef aucune latitude de déconcentration, mais qui en même temps permet d'exprimer toutes sortes de nuances par le geste, en particulier les phrasés. Moi, je me concentre beaucoup là-dessus dans mon travail de chef. Vous savez, avec la plupart des orchestres, enfin avec beaucoup d'orchestres, vous pouvez être amené à montrer quelque chose et ne pas obtenir le résultat que vous voulez sans parler. C'est-à-dire que même en baissant la baguette le plus bas possible, vous n'aurez pas un pianissimo ou un pianississimo. Donc ça rend parfois la communication un peu délicate. Là-bas, c'est absolument le contraire. C'est-à-dire que vraiment, si vous signifiez par le geste un pianissimo, vous aurez un pianissimo. Si vous signifiez un pianississimo, vous aurez un pianississimo. Ça, c'est vraiment exceptionnel. De la même manière, pour tout ce qui concerne les tempi, ils peuvent coller exactement à ce que vous montrez. telle manière qu'en fait, si jamais il arrive quelque chose qui ne vous convient pas, vous pouvez être sûr que ça vient de vous et vous en prendre qu'à vous-même. Donc en fait, ça a été une expérience extrêmement agréable pour moi parce que je me souviens très précisément que pendant les représentations, à aucun moment, j'ai eu à me soucier de l'orchestre. J'avais comme objet de concentration uniquement le plateau. Pour le coup, essayer de les soumettre à une certaine dramaturgie des tempi qui est un peu inhabituelle là-bas. C'était une expérience merveilleuse avec eux, d'autant que j'ai pu très rapidement après diriger ce même COSI en concert au Mégaron à Athènes. Et donc là, c'était encore plus agréable parce qu'il n'y avait pas, cette distance avec la scène, il y avait cette proximité avec les chanteurs. Et là, on arrive à une organisation qui peut paraître vraiment surprenante. Il y a cette idée aussi que les vineurs imposent leur son. Moi, je crois qu'ils sont beaucoup plus flexibles que ça. En réalité, en tout cas, dans la fosse, à l'Opéra de Vienne, ils veulent vraiment passer une soirée qui les intéresse, être motivés par un enjeu théâtral. Donc, ils sont finalement beaucoup plus disposés à vous suivre qu'on ne pourrait le penser.
Il y a une vraie volonté de suivre un chef. Il y a une part de séduction. Bon, là, on parlait de la Rolls des Rolls, mais avec d'autres orchestres. Quand on n'a jamais dirigé un orchestre, qu'on arrive comme ça...
Il y a forcément une séduction qui doit s'opérer. Il faut comprendre qu'un orchestre, il faut respecter sa culture, il faut respecter son histoire, ses ambitions. Alors, tout l'art, si vous voulez, en fait, de pouvoir... anticiper les intérêts qui peuvent être concomitants ou divergents. À la Monnaie, j'ai eu là aussi, grâce à une violon solo exceptionnelle qui s'appelle Tatiana Samuil, de pouvoir rentrer tout de suite dans les exigences que j'avais vis-à-vis de cette partition. Et je crois qu'elle avait à cœur de les restituer. Parfois, le contact avec d'autres orchestres, plus attachés à une certaine tradition, moins souple, ça peut poser évidemment des problèmes. Mais ça, on apprend à l'anticiper par expérience. Et puis, soi-même, il faut être capable de... Vous voyez, par exemple, à Vienne, il est évident que vous ne pouvez pas demander à un orchestre qui a vu passer pratiquement toutes les idoles que les chefs ont, hein, Kleiber, Bernstein, vous ne pouvez pas leur demander impunément de vous suivre, j'allais dire, intellectuellement. C'est compliqué. Donc il vaut mieux essayer de séduire par la conviction, par la vision qu'on porte. Voilà, ça, je pense qu'au bout d'un moment, s'ils sentent que l'œuvre est pensée, l'œuvre est dirigée au sens propre... Les problèmes sont moins importants.
Dès la création de votre propre ensemble, le Cercle de l'Harmonie, vous avez exprimé l'envie d'inviter des chefs.
Absolument.
À les diriger. C'est finalement assez rare dans ce type d'ensemble d'être dirigé par d'autres chefs que ceux qui les créent. Qu'est-ce que ça apporte ?
Ça apporte énormément de souplesse à un orchestre. C'est très très important de pouvoir répondre à des exigences qui sont différentes, de travailler dans d'autres optiques pour une semaine ou 15 jours. Du coup aussi, peut-être de comprendre de manière plus pertinente ce que la qualité du travail de fond que nous faisons ensemble. Ça permet à l'orchestre de se nourrir tout simplement d'influences différentes. Ça me semble fondamental. Ne serait-ce très égoïstement que pour moi, parce que au bout d'un moment, la tension pourrait se relâcher. C'est un écueil qu'il faut absolument éviter. Et finalement, en prenant un peu de distance, en gérant un peu l'absence, permet d'avoir un enthousiasme qui est constamment renouvelé.
Merci, Jérémy Rorin. On ira vous écouter au Théâtre des Champs-Élysées, dans Idoménée de Mozart, les 15, 17, 19, 21 et 22 juin. Vous enchaînez immédiatement avec les Vêpres d'un confesseur et la Messe en ut mineur le 24 juin, avec une distribution qui regroupe Sally Matthews, Anna Lundberg, Rainer Trost et Nahuel Di Piero. Ce sera le chœur, les éléments, comme dans Idoménée d'ailleurs. Vous reprendrez ce programme au Festival de Saint-Denis le 1er juillet. On vous retrouve ensuite dans Idoménée. C'est un anniversaire, presque jour pour jour, 5 ans après la révélation au Festival de Beaune. Ce sera cette fois-ci le 9 juillet, avec la distribution du Théâtre des Champs-Élysées. Et puis vous serez aussi le 10 juillet au Festival de Beaune, avec le programme Beethoven et Alexandra Tchoukou. On vous retrouve ensuite dans ce même programme au Festival des Heures Musicales de l'Abbaye de l'Essai, le 12 août. Vous dirigerez un programme intitulé « Le Paris des Romantiques » au Festival Berlioz de la Côte-Saint-André le 19 août avec votre premier violon, Julien Chauvin, et Bertrand Chamaillou au piano. Qu'est-ce qu'il y aura au programme de ce Paris des Romantiques ?
Le concerto numéro 1 pour piano de Liszt.
Un programme que vous donnerez également à l'Arsenal de Metz le 15 octobre. Ça nous mène loin. Et puis, on attend évidemment avec impatience Amadis de Gaulle à Versailles, puis à l'Opéra Comique, Amadis de Gaulle de Jean-Chrétien Bach, dans une mise en scène de Marcel Bozonnet. Je n'oublie pas votre disque chez Ambroisie Naïve, Beethoven, la naissance d'un maître, avec le Cercle de l'Harmonie, Julien Chauvin, premier violon, qui interprète d'ailleurs la romance pour violon en fa majeur, et Alexandra Tchoukou. On se quitte après les remerciements d'usage à Francis Malek, qui captait cette émission, avec, c'est assez paradoxal, une ouverture. C'est l'ouverture d'Idoménée pour recréer ce choc que nous avions vécu au Festival de Beaune le 8 juillet 2006 en découvrant Jérémy Rohrer et son Cercle de l'Harmonie. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.